Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle étude, un commentaire de texte et dans une situation tout à fait inédite concernant le peuple des Hébreux sortis d'Égypte à l'égard et en face de Moïse. Alors nous allons donc titrer tout simplement ce message « Attention, il y a miracle et miracle ». Et je vous invite simplement à ouvrir votre Bible et de lire dans le livre de l'Exode, chapitre 17, quelques versets. Alors, nous ouvrons le livre de l'Exode et chapitre 17, verset 1er. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant nous et prends avec toi les anciens ou des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortit de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Alors nous avons en effet matière à réflexion à travers cet épisode et nous voyons que il y a là... En effet, d'abord une unité, nous avons lu ensemble que selon les instructions de Dieu, Moïse et le peuple d'Israël vont se mettre en marche. Nous voyons qu'Israël sortit du désert de Sim selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et les voilà qui arrivent, en effet, dans un lieu qui s'appelle Réphinim. C'est un lieu d'arrêt et de préparation pour autre chose. Quelquefois, Dieu nous amène au désert. Il nous donne... En effet, là, des injonctions, et il va y avoir naturellement tout un programme, tout un ordre de route, avec des lieux où ils vont véritablement faire des étapes. Et c'est là, justement, en raison, finalement, de ce trajet déterminé par Dieu, qu'ils vont faire des expériences, mais des expériences aussi, non pas seulement de voir la main de Dieu qui va véritablement agir, mais, comme le nom l'indique, ce lieu d'arrêt de préparation s'appelle Réphidim. Et il y a naturellement, ils vont vivre quelque chose de difficile que l'on peut vivre dans un désert, dans l'isolement. Il va y avoir des besoins sans solution, c'est la soif. Et de cette soif va naître la révolte. La révolte, non pas directement par rapport à Dieu, parce que Dieu est invisible, mais ils vont s'en prendre, tout simplement, à leur prince, à leur chef, qui s'appelle Moïse. Soif et révolte. Et nous voyons que cela va engendrer des exigences. Ils vont demander à cor et à cri qu'il se passe quelque chose. Et il va y avoir du mécontentement. Et dans des conditions... tout simplement, où ils auraient dû être dans l'humilité, dans la patience, faire foi en Dieu, parce que ce n'était pas les premiers miracles que Dieu faisait avec eux dans cette période. Et il va y avoir, et cela revient dans notre texte, le danger ultime de tenter Dieu. Et nous expliquerons naturellement ce que veut dire tenter Dieu. Alors, nous pouvons peut-être relire, il nous est dit qu'ils vont réclamer à Moïse, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ? » Alors, Moïse va avoir cette attitude et ce réflexe. Il va crier à l'Éternel et lui dire, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Alors Dieu va donner naturellement par la suite des instructions. Nous voyons qu'il y a des reproches acerbes et une grande ingratitude d'avoir si vite oublié les miracles de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, et à travers bien d'autres situations où ils vont trouver dans ce désert aride de l'eau, où ils vont trouver de quoi manger, la manne, l'écaille, etc. Alors, il se passe quelque chose de particulier qui est à souligner, parce que ça fait partie de l'histoire insolite des Hébreux dans le désert. Il va y avoir ce que l'on a appelé le rocher du miracle. L'eau va jaillir sur tout simplement un ordre et un toucher d'un bâton sur ce rocher, et l'eau va couler à flot pour un peuple qui est très nombreux et tout le monde va pouvoir se désaltérer. Alors c'est la satisfaction du peuple qui se désaltère à satiété. Mais il y a une remarque à faire essentielle. Ce rocher porte le nom de Massa et Meriba, qui signifie le mot « tentation ». Et nous voyons que même devant un miracle de Dieu, même devant un prodige qui vient du ciel, il y a toujours, en effet, en interface, une tentation. Meriba, qui exprime le lieu de la bénédiction, parce qu'ils vont boire, ils vont être exaucés, mais ce lieu de bénédiction va être entaché de désobéissance, dont la conséquence sera immédiate, la conséquence sera simultanée, et ce sera la guerre à Israël, attaquée aussitôt par Amalek, c'est-à-dire une tribu païenne qui se trouve dans le désert, Amalek et son peuple, qui voyant l'eau jaillir miraculeusement du rocher, suscite la convoitise de l'ennemi et livre le combat. Et toute la motivation de ce peuple païen qui attaque en effet Israël, qui attaque les Hébreux, n'est tout simplement que le produit de la jalousie, parce que les besoins étaient les mêmes autant pour les Hébreux que pour les Amalécites. Voilà, donc combat la jalousie et la bénédiction devient une désapprobation divine. Et prenons garde de ceci, parce que Jésus n'enseigne-t-il pas qu'un exaucement peut avoir des résultats fâcheux ? Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter. Comment une bénédiction peut-elle devenir une malédiction, voire catastrophique ? Parce que toute grâce surnaturelle entachée de la désobéissance, du refus d'obéir, de tout simplement l'insatisfaction, malgré qu'ils ont eu tout ce qu'ils ont demandé, entaché de la désobéissance des enfants de Dieu, ouvre des accès à nos ennemis. Et l'ennemi, dans cette circonstance, il s'appelle Amalek, qui va attaquer, qui va essayer de détruire Israël, et ça s'est toujours vu à travers les siècles, des accès à nos ennemis, attention, de nous garder, même quand Dieu délivre par l'extraordinaire, par l'incompréhensible, par finalement le prodigieux, dont notre impatience est la motivation, où Dieu nous semble ne rien faire pour répondre. Ça, nous croyons que c'est véritablement le gros problème d'hier, c'est le problème des églises aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, où nous pensons que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous rejette, que Dieu, en effet, ne répond pas à nos prières. Et nous voyons que nous pouvons véritablement réfléchir sur cette question, parce que Dieu nous bénit, parce que Dieu nous fait du bien, parce que Dieu nous guérit, parce que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, parce que il fait mille et une choses. Alors, à ce moment-là, nous pouvons rester dans une attente de ces exaucements, et nous pensons que là, il nous a oubliés, qu'il ne veut rien faire pour nous. Alors, soyons toujours confiants et n'en doutons pas, en nous révoltant parce qu'un miracle reçu et accueilli ne doit pas croître, ne doit croître, pardon, ne doit croître dans le terreau de l'impatience, ne peut et bien croître dans le terreau de l'impatience et de la révolte. Et nous avons, et parfois nous avons cette réaction d'être tentés de s'en prendre à Dieu comme véritablement le responsable de notre misère. Gravité de la critique, comme nous l'avons lu, de l'incrédulité, quand le désert bruisse de murmures, parfois les églises aussi, parfois les chrétiens aussi sont pris de la même maladie, de la même réaction, et bien que Israël dans le désert, dans ce lieu, Massa et Meriba. Le monde du miraculeux est une, en effet une tentation à avoir la démangeaison du spectaculaire, de l'intolérance, de ne voir que si peu d'actions grandioses, et la curiosité, ce n'est plus la foi qui sait attendre le temps de Dieu, mais tenter Dieu, et nous avons une simple explication que nous pouvons donner. Qu'est-ce que tenter Dieu? C'est tout simplement le provoquer, le tester, le mettre à l'épreuve. Alors c'est Dieu qui nous met à l'épreuve, mais nous n'avons pas à mettre à l'épreuve Dieu, et ainsi, en effet, eh bien là, d'être dans une attitude où véritablement, eh bien, nous pouvons contrarier, nous pourrions dire, alors que Dieu s'attend à la foi, il s'attend à notre, eh bien, tout simplement persévérance jusqu'au moment de l'exaucement. Mais quelquefois, nous allons plus vite et nous reprochons, nous faisons des reproches à Dieu. Et c'est ça, tenter Dieu, c'est grave. Et nous avons en effet toujours cette fièvre de voir, de vivre, une émotion, une sensation de ressentir les choses, parce que la foi, ce n'est pas de voir, mais c'est de croire pour ensuite voir. Ça, c'est quelque chose que nous avons souvent dit, et c'est charnel, et si peu spirituel. Alors Amalek, le païen, l'attaquant de tout simplement des Hébreux, se lève pour neutraliser Israël désobéissant avec la permission de Dieu. C'est ça justement ce qui quelquefois eh bien nous trouble, c'est que nous disons et nous nous plaignons et disant mais pourquoi Dieu as-tu permis ceci et cela? Mais c'est pas que Dieu nous permet finalement d'être éprouvés pour être éprouvés par le fait d'être éprouvés, mais c'est parce que justement il veut nous apprendre une leçon en nous testant lui, et nous savons que, eh bien là, il va y avoir une leçon, une grande leçon pour eh bien, Israël. Car sans l'obéissance et le discernement, on finit souvent dans la confusion, selon le conseil qui nous est donné, et je le rappelle, parce que nous savons que derrière cette leçon, eh bien, il y a cette parole qui nous est dite par l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4, quand il est dit ceci, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et reconnaissez à ceci à l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare, eh bien là, la vérité, tout esprit qui se déclare l'authenticité divine, eh bien, ne peut venir que de Dieu. Alors il y a naturellement eh bien, cette parole où nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de perspicacité, de ce qui nous arrive. Il y a là dans ce texte, eh bien, tout simplement de l'Exode, il y a une bénédiction, mais cette bénédiction va être détournée à cause de nos impatiences, à cause de ce que nous trépignons, si je peux me permettre d'employer ce mot, pour véritablement eh bien, aller plus vite, recevoir les choses, alors que la parole de Dieu nous le dit, tout ce que vous demanderez, en priant, avec foi, n'oublions pas, avec confiance, eh bien, vous le verrez s'accomplir, parce que Dieu prend son temps, parce que Dieu se sert souvent même des bénédictions pour nous apprendre des choses que nous n'aurions jamais appris autrement. Alors, c'est vrai, je le disais il y a un instant, que éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou s'ils viennent d'ailleurs. Là, ils venaient d'ailleurs, puisque finalement, eh bien, Amalek, la personnalisation eh bien, des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits destructeurs, où il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des autorités, des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Par Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et nous pouvons dire que quelque part, Dieu va se servir du châtiment d'Amalek, il va se servir de ce païen, il va se servir finalement de ce combat, de cette attaque pour enseigner eh bien, à Israël, tout nouvellement affranchi de l'Égypte, eh bien, à faire confiance envers et contre tout, eh bien, à son Sauveur et à son Seigneur. Nous pouvons peut-être conclure par cette morale et cette conclusion toute simple. Les causes sont plus utiles et déterminantes. Les causes, nous avons vu, c'est la désobéissance d'Israël. Et les conséquences, c'est tout simplement eh bien, l'attaque par un ennemi dans le désert, ennemi d'Israël, Amalek. Les causes sont plus utiles et déterminantes, à savoir que les résultats les plus vibrants, les plus voyants, les plus enthousiasmants dans la personne d'Amalek qui va être lâché contre le peuple pour lui faire la guerre, eh bien voilà, nous voyons qu'Amalek veille à nous induire en erreur, à nous tromper, puisque nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 4 il y a un instant, parce qu'il y a toujours, et c'est le titre que nous avons donné, il y a miracle et miracle. N'oublions jamais que ce qu'un jour, et ça c'est dans le texte, une attitude de mauvais sentiments, une désobéissance surtout, peut enfanter. Et je finis par tout simplement eh bien, cette morale, nous pouvons dire, à toute fin de clarté. Il y a miracle et miracle, nous l'avons souligné, celui de l'obéissance à la volonté de Dieu qui nous instruit, qui nous donne sa parole, qui nous inspire dans eh bien, ce qu'il est, dans sa pensée, dans sa volonté, dans ses plans. Donc, nous pouvons ajouter et répéter celui de l'obéissance. Il y a le miracle de l'obéissance à la volonté de Dieu dans la sainteté du Saint-Esprit. Entre autres, la qualité que nous avons citée. Et il y a un autre miracle, c'est celui de la désobéissance, celui de la désobéissance dans l'iniquité qui dévoile la puissance d'un monde de l'occulte. Seront, selon ce qu'il nous est dit dans l'Évangile, et c'est Jésus qui le dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ça, c'était à l'encontre tout simplement des pharisiens, parce que vous, véritablement, vous commettez l'iniquité. Vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Vous n'êtes pas finalement suffisamment sage et prudent parce que vous voulez tout de suite. Parce que vous voulez finalement que Dieu vous donne là, comme dans un claquement de doigts. Alors, vous qui commettez l'iniquité et qui dites, « Alors, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons guéri des malades par ton nom. » Et en effet, nous voyons que Jésus dira tout simplement, « Vous, les trafiquants, vous, tous ceux qui sont des Amalèques quelque part, hein, des ennemis de Dieu, des ennemis de la foi des chrétiens, alors surtout, ne vous méprenez pas, vous pouvez toujours invoquer que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela, hein, chasser les démons, vous avez prophétisé, nous avons prophétisé, nous avons guéri des malades, et Jésus dira tout simplement, « Moi, je ne vous connais pas, et en effet, parce que tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui est inique, qui est le péché, et le péché qui touche l'occulte. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et qu'ainsi, à travers, en effet, ces quelques mots, à travers ce passage que nous avons dans l'Ancien Testament, je rappelle tout simplement, attention à bien discerner, parce qu'il y a miracle et miracle. Il y a les miracles de Dieu, et puis il y a là sa contrefaçon, les miracles du diable, les miracles des esprits méchants qui veulent nous induire avec les conséquences que ça peut avoir, parce que si nous nous dirigeons dans cette voie, eh bien nous aurons non plus la bénédiction, mais nous aurons son contraire. Mais ce n'est pas parce que Dieu eh bien, produit cette épreuve que finalement il nous abandonne. Dieu veut nous donner une leçon, et nous savons que nous avons dans cette parole des Romains, cette parole de l'apôtre Paul, toute chose, il dira, il écrira pour toutes les générations passées, les générations présentes et les générations à venir, tout ce que, en effet, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses plans, selon ses desseins. Alors, prenons naturellement toute la mesure de cette leçon, Mais sachons une chose, c'est que nous devons garder notre patience, nous devons attendre Dieu dans son temps et comme il le veut et où il le veut. Alors, merci à tous et merci de votre attention et à bientôt de se retrouver pour un deuxième épisode qui fera la suite de Miracles et Miracles. Ce sera tout simplement cette parole où nous verrons tout simplement le miracle événement qui sera en quelque sorte la suite et la complémentarité de ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.